Au ras des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers des sons, des voix et des rencontres.
Une émission proposée par les radios d'Aura FM à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Au ras des pâquerettes.
Rachel s'était dit qu'un job de bureau pourri n'était pas la fin du monde. Avec le recul, elle a constaté que la fin du monde, en fait, était préférable. Bullshit Jobs, David Graeber, anthropologue.
Bienvenue dans le massif des Bauges, territoire montagneux de 5000 habitants situé entre les villes d'Annecy, Chambéry et Aix-les-Bains. Les Bauges, territoire rural, oui, mais territoire dynamique. 55% de sa population vit et travaille dans les Bauges, et non, tous ne sont pas agriculteurs ou forestiers, même s'ils représentent une part importante de l'activité économique du massif. Le massif des Bauges est depuis plus de 20 ans un territoire d'expérimentation sur le travail, l'activité salariée et les manières de produire de la valeur ajoutée, qu'elle soit économique, humaine ou sociale. Pour cet épisode de Au ras des pâquerettes, Radio Alto vous emmène en immersion dans le monde fabuleux du travail et de toutes les questions que cette notion soulève.
Dans cette émission, nous découvrirons l'histoire des organisations coopératives sur le massif des Bauges, éclairée par un exemple de GAEC et de SCOP. Une réflexion plus large sur le travail de demain avec l'association chambérienne Émancipée, le tout assaisonné de sons pris ici et ailleurs.
Cette histoire du travail coopératif, dans les Bauges, ça a fonctionné comment ? À l'occasion du mois de l'économie sociale et solidaire, une conférence a eu lieu à Lécheraine dans le cœur des Bauges sur l'histoire du travail coopératif sur le massif. C'est Jean-Luc Chautagna, fondateur de la SCOP Oxalis et accompagnateur en économie sociale et solidaire, qui s'est penché sur la question.
Je suis juste comme vous, essayant de comprendre comment marche la coopération et essayant de m'y investir à ma hauteur et avec mes moyens. En tout cas, j'ai fait une petite recherche sur les Bauges là pour resituer, parce que étant ici à Lécheraine, je pense que c'est bien de s'intéresser un petit peu à ce qui s'est passé ici. Et c'est difficile parce que le mouvement social, et y compris le mouvement coopératif, a été peu documenté au niveau de l'histoire. C'est toujours difficile d'avoir des éléments. Les acteurs ont très peu de temps à consacrer à relater en fait leur histoire, et les sciences académiques classiques s'intéressent peu aux coopératives, donc c'est difficile d'avoir des éléments. J'ai quand même trouvé quelques éléments. Donc pour les Bauges, en tout cas, le mouvement coopératif s'est principalement centré sur autour des paysans, puisque les Bauges ont toujours été une terre agricole, et donc c'est principalement là que ça a commencé. Et donc à travers notamment les fruitières, donc les fruitières, c'est regrouper le fruit de le lait, donc des élevages. Et les deux premières fruitières sont apparues en Bauges en 1862 et en 1867, donc au Noyer et à Jarzy. Donc c'était vraiment déjà il y a très très longtemps. Si vous, pour se resituer, les pionniers de Rongedal, qu'on situe un peu comme un moment fort du mouvement coopératif, c'est les années 1840. Donc vous voyez, c'est quand même très proche de la création des premières coopératives. Et ces fruitières sont multipliées au point que dans les années 20, c'est plus seulement une fruitière par commune dans les Bauges, mais une fruitière par hameau. Et on voit encore des bâtiments qui retracent ce passé, qui parfois ont été réutilisés à d'autres destinations. Mais en tout cas, il y avait vraiment une implantation très forte, et les paysans se regroupaient pour ça. Donc ça a perduré. Au niveau du lait et du fromage, il y a eu un effet marquant, c'est la création, la première coopérative laitière du Beaufortin en 1961. Et qui a été marquante, c'était vraiment les premières AOC de montagne qui maintenant, on sait, ont joué un rôle très important dans le développement économique. Et les Beaujus, donc les paysans Beaujus à ce moment-là, n'ont pas voulu suivre le train du Beaufort. Mais en tout cas, il y a eu en 1972 la création d'une SICA, donc Société d'intérêt collectif agricole, qui a lancé l'idée de la tome d'ébauche. Donc c'était en 1972 et c'était aussi pour prendre le relais de ces fruitières, puisque progressivement les fruitières ont eu des gros soucis et elles ont pour la plupart disparu ou ont été rachetées par des industriels. Donc la collecte a été reprise de manière différente. Ce qui fait que dans les années 70, il y avait vraiment beaucoup moins de fruitières. Et c'est à ce moment-là qu'à Ayon le Jeune, des paysans se regroupent et recréent une coopérative. Et suivie une dizaine d'années plus tard par celle de l'Echerenne, la coopérative de l'Echerenne. C'est les deux coopératives qui ont fusionné récemment, il y a 2 ans, là, pour recréer une seule entité. Donc... voilà, ça a vraiment marqué le fait coopératif en Bauge et c'était vraiment une organisation qui a été très utile pour le territoire. Alors on pourrait parler aussi du Crédit Agricole puisqu'il y a toujours une caisse locale au Châtelard, mais voilà, après c'est des formes coopératives très anciennes et qui pour certaines aussi ont perdu leur base coopérative. Et ça on pourra en débattre. Donc ouais, je disais que là il y a eu une fusion. Puisqu'à Ayon, la collecte avait été diminuée et ne suffisait plus à faire vivre la coopérative. Du coup, l'idée c'était de fonctionner ensemble et ces deux coopératives en gestion directe. Et sachant qu'en parallèle, il y a eu récemment le rachat de l'unité de transformation de la compote, l'ancienne fruitière, donc par un industriel. Donc on voit bien que il y a quand même un vrai risque qu'il y ait une reprise par le marché, par les organisations plus capitalistes de ces productions laitières et que en se renforçant la coopérative de l'Echerenne avec celle d'Ayon crée quand même une entité suffisamment forte pour résister un petit peu à ce phénomène, même si rien n'est jamais garanti, puisqu'on pourrait parler aussi des coopératives de consommation. Les coopératives de consommation ont beaucoup marqué la vie coopérative. C'était des mouvements très très puissants à partir du début du XXe siècle. En fait, on a vu l'émergence de ces coopératives-là. Donc là, c'est vraiment des consommateurs qui se regroupaient ou qui se regroupaient au sein d'entreprises, souvent des grandes entreprises, créaient pour leurs salariés des coopératives de consommation pour accéder à une nourriture moins chère et mutualiser différents services. Et pour illustrer ça, en 1966, l'Union des coopérateurs de Haute-Savoie, de Savoie et de l'Ain regroupait 70 boutiques, 3 dépôts, 4 boulangeries pâtisseries, 2 boucheries, 1 bar salon de thé. Son chiffre d'affaires était passé de presque 30 millions de nouveaux francs en 1950 à environ 20 millions en 1965. Donc ces coopératives se sont lancées au début du XXe, mais elles ont vraiment grossi après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à vraiment devenir des acteurs très importants de la distribution. Pendant la guerre, ces coopératives aussi de consommateurs, c'est assez notable, ont contribué à la résistance, puisque j'ai retrouvé qu'un directeur de l'Union des coopérateurs de Haute-Savoie a été arrêté par l'armée allemande puisqu'on avait découvert des produits COP dans les campements et les caches du maquis du Haut-Chablais. Donc c'était aussi, voilà, il y avait aussi des liens à ce niveau-là avec la résistance. Alors ces coopératives de consommation, dans les années 70, eh bien, elles ont été confrontées à une concurrence directe de la grande distribution, puisque à ce moment-là, on a vu l'apparition des supermarchés. Hein, et du coup, ces coopératives-là n'ont pas su résister. Ça a été dans toute la France, hein, ça a été ça. Elles ont disparu progressivement. Elles n'ont pas su. Alors, il y a eu différentes explications par rapport à ça. Mais on peut situer, par exemple, la constitution de grands groupes de distribution avec des moyens énormes, des moyens de promotion. Et c'est vrai que ces grands groupes avaient réussi, par la massification, à diminuer le prix des denrées alimentaires. Donc beaucoup de consommateurs se sont tournés vers ces groupes. Il y a aussi des changements vraiment profonds de la consommation, avec la consommation à l'extérieur des grandes villes, dans les grandes unités de distribution, etc. Il y a eu aussi, de la part des coopératives de consommation, l'abandon des bonnes pratiques de gouvernance, on va dire, et les valeurs fondatrices qui progressivement ont disparu. Et du coup, c'est devenu des entreprises gestionnaires, ce qui fait que les consommateurs s'en sont détournés progressivement et ont été voir ailleurs. Et donc cette union savoyarde des coopératives de consommation, je crois que c'est dans les années 70 qu'elle était dissoute et qu'elle a disparu. Mais il y avait donc, alors je crois pas qu'il y avait de magasins dans les Bauges proprement dit, mais il y avait des magasins Aix-les-Bains à Annecy, qui étaient... à Annecy, il y a eu la renaissance d'Aquarius, qui a pris le relais assez rapidement, en fait, sous une autre forme, et qui a été à l'origine du réseau Biocoop, de distribution bio. Voilà. Alors, si on revient aux Bauges, il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'est en 1980, je crois. Ouais, je crois que c'est en 1980. C'est la création du Nico. Donc, supermarché du Châtelard, qui a été créé, en fait, à la fois par des commerçants et la mairie. Puisque, à ce moment-là, dans les années 70 aussi et 80, il y a eu la disparition de beaucoup de petits commerces dans les Bauges, notamment en Châtelard, et face à cette situation, pour arriver quand même à avoir une distribution locale, il y a eu une coopération qui a permis de créer Unico. Et Unico s'est créé en SCOP, donc Société Coopérative Ouvrière. Donc il y avait quasiment que cette unique-là qui était gérée en SCOP. C'est quand même assez atypique. Et cette SCOP a perduré jusqu'à la création du Carrefour, du Châtelard, donc Carrefour Market. Je me souviens pas de la date du Carrefour Market. Ouais.
Ça fait très longtemps.
Ça fait une dizaine d'années peut-être.
Ouais.
Et du coup, à ce moment-là, d'une part, les coopérateurs de la SCOP qui géraient le magasin Unico ne se sont pas sentis de se lancer dans ce projet qui était ambitieux et qui demandait un investissement très lourd. Et également, la mairie n'a pas soutenu la SCOP dans sa démarche, ce qui fait que le Carrefour s'est créé avec une franchise classique, on va dire. Il n'y avait pas de coopérative qui a repris ça. Mais bon, c'est quand même intéressant de le noter. Et du coup, ben, si on parle un peu des coopératives aussi, en 1997, il y a eu la création de la SCOP Oxalis, donc, du coup, qui était issue du monde associatif. Il y a eu un fort réseau, on va dire, de bénévoles, de gens qui ont contribué à ça, dont certains sont dans la salle. Et du coup, ça a été un peu l'apparition d'une nouvelle forme coopérative, avec de la multi-activité, avec un projet très fort sur la gouvernance. Et Oxalis était à la fois association et coopérative, et a généré aussi, au sein de l'association, plusieurs formes. D'autres associations, Radio Alto, par exemple, avait été un peu incubée au sein de l'association Oxalis. Et parallèlement à la SCOP, du coup, moi j'étais un des acteurs, et on avait créé aussi la Petite Oseille, qui était une société financière coopérative, les éditions du Croquant. Donc à Bellecombe en Bauges, le facteur déposait le courrier de plusieurs coopératives au même endroit. Et on a participé à ce moment-là, donc avec Oxalis, à la création du mouvement des CAE, donc qui a été évoqué. C'est dans les années 2000. Et voilà, donc un petit peu on en arrive à l'histoire d'aujourd'hui, avec la dernière coopérative qui a été créée, c'est la SIG Bio Bauges qui nous accueille aujourd'hui. Et du coup, c'est la SIG Bio Bauges, c'est la seule SIG en activité dans les Bauges, a priori, enfin en tout cas dans le cœur des Bauges. Et les SIG ont été, avec les CAE, les formes coopératives innovantes. Enfin, depuis les années 2000, on assiste à un renouveau des coopératives, en fait, de certaines formes de coopératives en tout cas. Et dans ce renouveau-là, on situe bien les CAE, coopératives d'activité et d'emploi, il y en a 130 actuellement en France, qui regroupent 12 000 entrepreneurs, et les SIC, il y a environ 1400 SIC actuellement en France, qui regroupent 70 000 associés, donc c'est un mouvement assez fort, qui renouvelle en fait la façon de faire de l'économie, qui correspond, parce que les coopératives, en fait, elles ont toujours accompagné le mouvement social, et elles ont accompagné aussi comment les citoyens s'organisent, en fait. Et à chaque époque, il y a des formes d'organisation qui correspondent à ce que voulaient les citoyens. Et on peut dire que les CA d'un côté, les SIG de l'autre, correspondent bien à la façon de militer sur le plan économique. Et ce qui est particulier avec les SIG, et du coup, je pense qu'on pourra en discuter, c'est plus une coopérative sectorielle. Parce que là, je vous ai parlé de la consommation, de l'agriculture, de services bancaires. C'est des coopératives qui agissent sur un secteur économique. Le gros renouveau des SIC, le gros apport, c'est le multisociétariat, c'est-à-dire on crée des ponts entre les secteurs économiques, et ensemble on peut réaliser quelque chose de plus grand, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de très novateur, on va dire, et c'est un outil qui est commun à plusieurs familles coopératives, puisque dans des SIC on peut aussi bien avoir des SCOP, des coopératives agricoles, des banques, enfin plusieurs acteurs coopératifs en fait peuvent mettre leurs billes dans une SIC pour se développer.
Au ras des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur.
Alors oui, le monde du travail de demain, c'est aussi son lot de sigles. On commence avec le GAEC, Groupement Agricole d'Exploitation en Commun. Laurent Pavy, du GAEC de la Marmotte à La Motte en Bauge, nous explique sa vision de l'évolution du travail dans le monde agricole. Un reportage d'Éléonore Midgar.
Et puis après, l'autre aspect pour moi qui est très important, c'est qui va travailler dans les fermes demain. Et ça, je pense que c'est un point très important aussi, parce que pour que l'agriculture ait toujours une place importante, en fait, il faut qu'on soit assez nombreux. Et c'est pour ça que, enfin, moi, c'est mon point de vue après, mais je trouve que c'est important qu'on soit nombreux à travailler dans les fermes, que ce soit des salariés agricoles, des exploitants, des associés, mais c'est important qu'on soit nombreux, et je trouve que c'est dommage et c'est un travers d'essayer de toujours équiper pour qu'un agriculteur puisse travailler le plus tout seul possible, quoi. Je trouve que c'est dommage et qu'à terme, en fait, on se retrouve avec des grosses exploitations qui sont gérées par assez peu de monde. Et du coup, le résultat, c'est qu'au final, ben, un agriculteur, voilà, il lui faut 30, puis 40, puis 50 vaches pour arriver à se tirer un revenu. Parce qu'à côté de ça, ben, faut qu'il rembourse un emprunt pour un robot, pour un tracteur supplémentaire, etc. Mais je suis pas en train de dire que c'est la faute de l'agriculteur, cette démarche-là. C'est pas ça. J'ai l'impression que c'est un espèce de phénomène de société où dans toutes les filières, il faut toujours mécaniser, essayer d'être de plus en plus efficace par personne. Et je pense que ça dessert l'agriculture. Pour moi, c'est pas une bonne chose pour l'agriculture. C'est un des aspects qui est compliqué, comme tu disais, l'achat des fermes. C'est qu'en fait, aujourd'hui, un jeune qui veut s'installer, ça représente un coût très important, avec beaucoup d'incertitudes, parce qu'on entend souvent dire, bon ben voilà, il va falloir rembourser des gros emprunts avec pas beaucoup de salaire. Du coup, ça crée quand même une espèce d'anxiété de la part d'un jeune, où il va se dire, mais je vais peut-être pas pouvoir investir tout ça, etc. Puis ça se comprend bien. Donc je pense qu'en fait, il faut qu'on trouve des systèmes pour que des gens puissent être agriculteurs sans avoir besoin d'être endettés pendant aussi longtemps, ou des trucs comme ça qui sont toxiques, quoi. Il y a pas mal de façons d'être agriculteur, et c'est vrai qu'aujourd'hui sur les Bauges, on est quand même beaucoup centré, voilà, bovin, lait, tomme des Bauges, tout ça. Donc ça donne une base d'agriculture très stable, je trouve, mais c'est bien qu'après qu'il y ait d'autres personnes qui puissent intégrer ces fermes-là ou créer leurs fermes avec d'autres projets agricoles. Ça créerait de la diversité, puis ça serait chouette aussi, ouais. Je pense qu'il y a des places à saisir, mais faut que nous, agriculteurs, on arrive à donner envie à d'autres personnes de venir. Et puis après, il faut qu'il y ait des gens qui soient... Ça reste quand même un métier passion, et un métier où si on veut avoir voilà, une vie privée à côté, si on veut pouvoir s'y épanouir durablement, je pense qu'il faut beaucoup de motivation, d'entrain, et puis il faut y aller, quoi.
Aura des pâquerettes.
La populace, pense-t-on sans le dire, est composée d'animaux d'une espèce civile qui pourraient devenir dangereux si on les laissait inoccupés. Dans La Dèche à Paris et à Londres, George Orwell.
Autre monde, autre sigle. Ludivine vous emmène à Boffre au sein d'une auberge organisée en SCOP. L'auberge est en Ardèche, mais quand l'une de ses salariées se délocalise dans les Bauges, on a envie de comprendre comment ça marche. Rencontre avec Arthur et Mario, acteurs de la SCOP.
Donc, c'est-à-dire qu'on est une SARL, on est une entreprise classique. Aux yeux de l'État, mais après elle est gouvernée sous forme de SCOP, qui est...
Tu peux nous expliciter, ouais,
donc SCOP. Une SCOP, c'est une société coopérative ouvrière de production. C'est-à-dire que c'est une société qui est organisée pour donner une place à chacun dans les décisions prises par l'entreprise. On a quand même des co-gérants qui sont légalement obligatoires, mais qui pour nous n'ont pas de mission particulière, mais qui sont juste, qui ont une responsabilité, voilà, légale. Ensuite, on va avoir des associés, donc qui sont dans la SCOP, et chez nous des associés salariés. Donc tout le monde est salarié, et après tout le monde devient associé à terme. C'est l'idée. C'est eux qui en fait dirigent tous ensemble, de façon collégiale, le lieu. Alors l'autogestion, c'est pour aller, de notre point de vue, dans le sens de l'esprit d'une SCOP. C'est-à-dire que l'idée, c'est de gommer la hiérarchie et de faire en sorte que tout le monde puisse décidé et qu'on n'ait pas, pas de forme pyramidale dans notre organisation. Pour visualiser un petit peu, ça va être plutôt comme des cercles d'organisation. Donc nous, on a vraiment deux grands cercles qui sont la partie, on va dire, métier, la partie rapport avec les clients, et après on a la partie plutôt bureau, organisation. On a une équipe bar qui va s'occuper, enfin qu'on a appelé comptoir, parce que donc vous le voyez pas à la radio, mais en fait c'est un immense comptoir qui est une épicerie, qui devient un relais poste, puis qui devient un bar et qui est aussi le bar du restaurant. Donc c'est cette équipe-là qui gère en gros ce lieu ensemble. Et après, on a une équipe cuisine qui, eux, s'occupe plutôt de la partie restaurant. Dans les bureaux, on va avoir une équipe compta-finance, donc qui va gérer un petit peu tout ce qui est prévisionnel, comptabilité au quotidien, les liens avec les experts comptables, tout ça. Ensuite, on a une équipe RH qui gère les plannings, les fiches de paye, les paiements, tout ça. Voilà. Et une équipe communication, après on va... Enfin voilà, en fait ça se fait plutôt sous forme de groupe.
Et pour être sur un exemple précis, toi t'as quoi comme casquette ?
Alors moi je fais partie de l'équipe comptoir, donc je suis épicier, postier, barman, serveur. Et à côté de ça, je suis le référent pour la poste. Ensuite, je m'occupe de la compta, et donc les liens avec l'expert comptable. Et après, je fais partie de l'équipe communication. Et donc, je m'occupe, moi, de Facebook, relations extérieures et un petit peu les liens avec les chargés de com de nos partenaires.
Ça fait quasiment 10 ans que je tourne dans des cuisines. En fait, il y a deux parties dans l'auberge, on va dire. Deux parties dans le travail de l'auberge. Il y a ce qu'on voit, en fait, le quotidien. Qui sont des missions de cuisine, de service, d'épicerie, de gestion du coworking et tout ça. Et après, il y a toute la partie administrative. Voilà, moi, je suis gérant, du coup, de la SCOP aujourd'hui. Donc, j'ai des tâches qui incombent un peu à ça, qui sont des tâches de suivi de l'activité économique. Je gère les AG, je gère ce genre de choses. J'ai longtemps géré les stocks, mais plus maintenant. Ou alors on tourne aussi. En fait, l'organisation change quasiment tous les 6 mois. On rebat un peu les cartes. Je vais peut-être me former à la compta, voilà, au départ d'Arthur. Il y a aussi la volonté de tourner pour pouvoir se former.
C'est quoi une journée type, en gros, grosso modo, de Mario à l'auberge?
Bah, Mario à l'auberge, il fait quand même beaucoup de cuisine. En fait, au final, il commence soit le matin assez tôt. Généralement, les cuisiniers, c'est les premiers arrivés quand même, parce qu'on cuisine au feu de bois. Et ça prend du temps en fait, il faut s'en occuper, il faut arriver tôt, allumer le four, tout ça, allumer le fourneau aussi, donc ça nous prend quasiment une demi-heure en fait de tout mettre en route, la plonge, enfin de tout mettre la cuisine opérationnelle. Donc voilà, après on fait de la cuisine jusqu'à midi, on fait ce qui s'appelle la mise en place, c'est-à-dire on fait toutes les préparations nécessaires au service du midi. Donc on cuisine en gros de 8h à midi. Ensuite, il y a la partie ce qu'on appelle l'envoi. C'est de midi à 1h, 1h30, quand les gens s'attablent un peu plus longtemps. Et les week-ends, des fois, ça va jusqu'à 2h, quoi. Et là, c'est aussi le coup de feu, donc c'est des rythmes plus soutenus, où on est tous... Là, il y a un vrai travail d'équipe, en fait.
Tu as la table 9. Oui, voilà, ma suite. Alors, est-ce que je dis quelque chose non, c'est bon. Donc là, tu as les deux agneaux confits, et quand on a les coquettes, là,
un peu de persil,
et voilà. Donc ça, c'est
ok
à la 9.
Et après, il y a tout le nettoyage. Une journée s'enchaîne soit sur une réunion qui peut être une réunion collective où voilà, ensemble on va faire remonter les problèmes ou les suggestions ou les envies des uns et des autres, ou ça peut être aussi des réunions avec que certains membres qui ça va être pour organiser un événement comme là la semaine dernière le bouchon lyonnais, où là on a envie de faire des projections de films, on a envie de faire plein, en fait on a toujours envie de faire plein de trucs, donc il se passe toujours plein de trucs, donc il est... et on essaye autant que faire se peut de mener ces projets en équipe à chaque fois en fait. C'est là où on fait ce que nous on appelle les heures grises, c'est-à-dire tout le travail administratif en fait.
Les heures grises, hein.
Ouais, c'est-à-dire il y a les heures de service et les heures comme la matière grise, quoi. Là, on fait chauffer plus les neurones que les cuisses.
Je te suis, hein.
Vas-y, suis-moi.
La solidarité, l'écologie et l'artisanat. En gros, c'est un peu ce qui sont nos valeurs communes. La solidarité, donc, c'est le principe des rémunérations qui sont justes. Alors, l'idée, c'est de discuter tous ensemble des rémunérations, de faire en sorte de payer les gens pour toutes les heures qu'ils font, et ensuite de faire participer tous les gens qui travaillent aux dividendes de l'entreprise. Donc, y a pas, ce ne sont pas les associés qui se partagent les dividendes. Alors, je précise aussi que les dividendes dans une SCOP, c'est la moitié des bénéfices, parce que l'autre moitié des bénéfices sont obligatoirement réinjectés dans l'entreprise. On essaye de créer des conditions de restauration qui soient un peu plus humaines, c'est-à-dire qu'on essaye d'éviter les coupures, on essaye de... nous, on a 2 jours de congé consécutifs et tous en même temps. On tente de réparer certaines choses qui sont faites dans la restauration et qu'on n'aime pas, mais c'est ça reste quand même des métiers épuisants, et ces charges cumulées à la charge mentale d'être dirigeants tous d'une auberge de cette ampleur là, ben forcément on estime souvent à 3-4 ans en fait le temps de voilà, moi ça fait 3 ans et demi que je suis là. Je vais m'en aller cet hiver. Là, on a eu un autre fondateur qui est parti à la fin de l'été. Après, moi, c'est ce que je dis. C'est marrant parce que c'est ce que je dis depuis le début, depuis que je suis arrivé. Je disais, de toute façon, cette auberge, on verra vraiment ce qu'elle vaut quand il n'y aura plus aucun fondateur et qu'elle tournera sans ses fondateurs. Et voilà, moi, je pense que ma parole de fondateur qui gère les sous et compagnie, bah c'est sûr qu'elle a plus de poids que quelqu'un qui vient juste d'arriver et qui connaît pas grand chose. Donc c'est sûr que, enfin, moi je trouve ça bien en fait qu'au bout d'un moment les fondateurs s'en vont. Après, il va falloir voir sur les gens qui reprennent, et si on commence à avoir un équilibre économique correct avec une ambiance correcte une fois qu'il y a plus de fondateurs, bah là pour moi c'est à ce moment-là que le pari il est réussi.
Ouais, mais aucun projet n'est figé en fait, même le resto qu'il a et resto bar, on va dire, c'est des activités un peu qui sont rodées, sur lesquelles on met énormément d'énergie. Demain, avec une autre morphologie d'équipe, en fait ils peuvent être amenés à évoluer, à changer et tout ça, et c'est voilà, on tient pas coûte que coûte à ce que ça reste. Enfin, c'est bien que ça s'imprègne des personnalités des uns et des autres. Nous, on tient à ça aujourd'hui.
Alors moi, les succès, je dirais que c'est que quand on est 6, on a vraiment les idées de 6 personnes en même temps. Ce qui fait que ça, c'est quand même plutôt riche en fait, les réflexions en termes d'idées, de gestion et tout ça. Alors on a pas mal d'idées de merde qui germent, mais on a aussi des bonnes idées. On a aussi des idées sur lesquelles, puis voilà, moi le premier, hein, cette auberge, elle m'a appris, hein, elle m'a aussi appris qu'il y avait des choses sur lesquelles j'étais persuadé que c'était vraiment pas du tout une bonne idée, et en fait il s'est avéré que c'était une très très bonne idée, et donc ça permet d'expérimenter des choses. Donc les décisions sont beaucoup plus lentes à être prises, mais quand elles sont prises, elles sont plus effectives, plus efficaces. Après, les limites, c'est justement cette histoire de la temporalité. Bon, il suffit de voir quand on part en vacances en couple ou quand on part en vacances avec 8 potes, on part pas à la même vitesse à la plage, quoi. Il y a l'inertie. Et du coup, des fois, c'est même pas qu'on est plus lent, c'est que des fois, même, on rate des choses. C'est-à-dire qu'il y a même des gens à qui on ne répond jamais, en fait. Et ensuite, je dirais, l'autre aspect négatif, c'est enlever les patrons, et il en repousse tout de suite. C'est-à-dire que, en fait, on n'a pas du tout le logiciel de ça, et on n'est pas du tout fait pour vivre en autogestion. Et donc, on est en permanence à se battre contre nos envies de gouverner les autres ou notre envie de se faire gouverner, parce qu'en fait, on n'arrive pas à imaginer, enfin, c'est très difficile, on va dire, d'imaginer une façon de s'organiser en groupe sans qu'il y ait un chef. C'est du coup des effets de groupe qui sont souvent, qui sont assez permanents et qui changent, hein, qui ne sont pas toujours les mêmes personnes et tout ça. Mais on essaye de lutter contre ça, et ça, bah, pour le coup, ça nous demande de l'énergie, et c'est de l'énergie qu'on aurait pu mettre ailleurs. Voilà. Moi, ce que je dis souvent, c'est que l'autogestion, on n'a pas moins de problèmes qu'ailleurs, mais on n'a juste pas les mêmes.
Et c'est une super expérience. En fait, c'est une super expérience humaine, en fait, l'auberge de Beauf. C'est-à-dire, c'est l'équipe qui fait ces lieux, c'est les clients qui font ce lieu, et on a une histoire à raconter. On n'est pas... Quand on dit c'est qui le chef, quand les gens nous demandent c'est qui vous féliciterez le chef en cuisine, bah juste ça, on dit bah nous on est une équipe, et je trouve ça cool. En fait, c'est voilà, c'est aux antipodes un peu de la star de la cuisine, le chef star truc qui signe ses plats. Nous c'est pas ça. En fait, on se serre les coudes en fait et on va de l'avant comme ça. Et du coup, bah c'est cool.
Décidé au travail jusqu'à ma mort. Enfin, je ne veux pas être marginalisé dans le bénévolat et toutes ces cochonneries.
Au ras des pâquerettes.
Et ce mois-ci, c'est Radio Alto qui vous emmène à la découverte des différentes manières d'appréhender la notion du travail, dans les Bauges ou plus largement.
Et si, malgré toutes ces initiatives, on n'avait pas encore tout imaginé? C'est ce que pensent Nathalie Raison et Arthur Claudel, membres de l'association chambérienne Émancipée, qui sont venus dans les locaux d'Alto au micro de Ludivine.
Émancipé, c'est une association d'éducation populaire chambérienne, une association locale, qui a pour objet principal de lutter contre les formes les plus prégnantes de domination, notamment en cherchant à faire avancer la démocratie dans tous les domaines et à tous les niveaux, et à faire progresser l'idée et la pratique du salaire à vie. donc comme théorisé par Bernard Friot.
Un citoyen, c'est un travailleur. Un travailleur, c'est pas quelqu'un qui est en train de travailler. C'est quelqu'un qui est reconnu en capacité et en responsabilité de produire la valeur. Et par exemple, de s'y former dans les études. Payé, avec du salaire, pas une allocation d'autonomie. Du salaire. 1700 balles. Oh, mais vous allez donner 1700 balles à tout le monde à 18 ans? Oui, nous allons donner 1700 balles à tout le monde à 18 ans. Bien sûr, évidemment. Ah oui, mais ça suppose une autre école. Ben oui, ça suppose une autre école, évidemment. Hein, une école de l'éducation à la responsabilité en matière de production de la valeur. Et non pas une école d'apprentissage de la concurrence sur le marché du travail. Une école où on recueille tout le patrimoine et non pas où on acquiert des compétences. Enfin, c'est bien sûr. Les enseignants y aspirent, tout le monde y aspire. Ben donnons un exutoire à ces aspirations, enfin. Plutôt que d'être là à pleurnicher, à nous lamenter, etc., etc., etc. Non, sortons de cela. Et tous les débats publics doivent être l'occasion d'avancer dans le sens de la conquête de droits à la souveraineté sur le travail.
Et ça, j'aimerais en avoir un petit mot de votre part aussi sur ce qu'on appelle le réseau Salaria. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Réseau Salaria, c'est aussi une association d'éducation populaire, comme nous, mais qui est nationale et qui a été fondée en 2012 et qui a pour objet de vraiment de promouvoir le salaire à vie surtout de promouvoir tout ce qui existe dans la société de déjà là qui ressemble de près ou de loin à du salaire à vie et qu'il faudrait étendre. Par exemple, Réseau Salaria parle très très souvent de tous les statuts qui sont assez émancipateurs en fait pour les travailleurs et travailleuses, comme la fonction publique. On peut en penser ce qu'on veut, mais le fait est que c'est un statut qui est sécurisant, c'est-à-dire que c'est un statut où c'est pas mon chef de ma boîte ou mon employeur entre guillemets que je vois tous les jours qui va décider de ma rémunération. En fait, j'ai un statut. Si je suis prof dans une école et que le directeur d'école est pas content de ce que je fais, il n'y a pas un DRH, par exemple, qui va dire on te licencie.
Donc, c'est la question de la subordination, du rapport à la subordination, mais aussi de la détention du grade. Hein. C'est,
oui.
Voilà, c'est la question du grade.
On a un grade qui fait qu'on est sécurisé et on n'a pas peur, en fait, on a moins peur que dans les autres domaines, par exemple dans le privé, de s'exprimer, parce qu'en fait c'est vraiment on a un grade et ceux qui nous accordent ce grade, c'est un jury, c'est pas n'importe qui, c'est pas juste un DRH avec qui par exemple je m'entends mal.
Je me fais l'avocat du diable, hein. Est-ce que tout le monde a envie d'avoir un statut de fonctionnaire et est-ce que c'est uniquement ça que nous dit Bernard Friot et que vous évoquez dans le réseau Salaria? Je pense qu'il y a plein d'autres choses, hein.
Non, pas du tout, en fait c'est pas une société de fonctionnaires, mais plutôt de se réapproprier les conquêtes du mouvement ouvrier et du mouvement en fait salarial. Il faut savoir qu'au 19e siècle, c'était du louage d'ouvrage. Un commanditaire proposait de construire une chose et libre justement, on ne sait pas, aux ouvriers qui devaient accomplir cette mission sans cadre. Et aujourd'hui, on assiste à un retournement de cette situation avec... on revient en fait à cette situation initiale avec notamment les Uber, les coursiers Uber, qui eux, en fait, sont soi-disant indépendants, autonomes, mais on sait qu'en fait, ils ont une tâche à accomplir, donc il y a une commande quelque part.
C'est le
salaire à la tâche, c'est ça. Et en fait, il n'y a pas de code du travail qui s'applique dedans et ni de protection pour la personne. Et d'ailleurs, Uber s'est fait condamner même Deliveroo s'est fait condamner pour salariat déguisé, en fait. Et justement, nous, on défend les principes protecteurs du salariat avec le volet protection sociale qu'il y a derrière. Et le code du travail, ce n'est pas rien. C'est un respect aussi des personnes, des ouvriers qui travaillent, qui, en fait, une entreprise ne tourne pas non plus sans ses salariés, quoi.
Comment on rattache ça, en fait, ce que tu es en train de poser là, Nathalie, comment on le rattache à l'idée de Frio, justement, du salaire à vie et, en fait, du statut de fonctionnaire qui est un peu, quand on lit Frio, pas un idéal à atteindre, hein, vraiment pas, mais une base sur laquelle on pourrait réfléchir le lien de subordination ou le non-lien de subordination entre un employeur et son salarié.
Alors, en fait, si on reprend l'exemple du fonctionnaire, la rémunération du fonctionnaire ne dépend pas de son activité. Et c'est ça, en fait, qui est important. Les droits sont attachés à sa personne. Et c'est ça, en fait, qu'on veut voir advenir à travers toutes les sphères de la société. Qu'on décorrèle l'activité de la rémunération. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de salaire en gardant, en fait, le mieux de ce qu'il y a dans le salariat, mais tout en rattachant en fait ses droits à la personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est pris dans un système, d'ailleurs on distingue l'emploi du travail, puisque aujourd'hui on ne décide pas de la création de l'emploi. Par contre, dans la vie, il y a d'autres sphères du travail, comme notamment le travail domestique, le travail d'éducation, le travail bénévolat, qui n'est pas source de valeur ajoutée au sens du terme où qui fait gonfler en fait le PIB, mais par contre on sait bien que c'est un enrichissement collectif. Et en fait, avoir un salaire attaché à sa personne, c'est-à-dire que si je suis demain employé pour une boîte et je vois que les conditions de travail ne sont pas bonnes et en plus on ne respecte pas les critères environnementaux par exemple, je peux partir puisque je garde mon salaire. Et justement, je pourrais passer du temps à construire du collectif pour justement, enfin, qui sont plus en phase en fait avec ces valeurs-là.
Donc là, on est vraiment dans la proposition de salariat à vie de Frio, qui n'est pas la même chose qu'un revenu minimum. On est bien d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez l'un ou l'autre ou tous les deux nous expliquer cette différence qui semble quand même fondamentale et que tout le monde ne perçoit pas très bien?
Alors, la différence fondamentale avec le revenu de base, c'est que le salaire à la qualification personnelle ou le salaire à vie, ça ne se cumule pas avec une deuxième source de revenu. C'est-à-dire qu'on a un salaire qui est attaché à notre personne, qui ne peut que augmenter, et il n'y a pas de deuxième chèque, il n'y a pas de prime qui vient compléter ce salaire, a priori. Et ce qui va nous permettre de monter en grade, de monter en salaire, ça va être des délibérations politiques, on l'espère le plus démocratique possible à l'échelle de la société, qui vont décider de, par exemple, on est en manque de tel type de main-d'œuvre, on n'a pas assez de personnes, pour ramasser les poubelles, imaginons. Et bah, on va se dire, tiens, pour inciter les gens à le faire, on va faire en sorte que les gens qui le font puissent monter en qualification plus vite, donc augmenter leur salaire plus vite que les autres. Mais il n'y a pas de question que le mois même où ils font l'activité, on va leur donner une prime ou quelque chose, quoi. C'est la différence fondamentale avec le revenu de base, c'est que le salaire et la rémunération, c'est un sujet politique et délibéré en permanence, en quelque sorte. Ça évite en fait les aléas et les hasards et les rapports de force parfois injustes qu'il peut y avoir ici et maintenant, et ça les remet un peu dans un temps long, et ça les met en permanence dans une délibération collective qui permet de trancher sur qu'est-ce qu'on paye plus, qu'est-ce qu'on arrête d'inciter à faire. Si par exemple il y a 1 million de youtubeurs, on va peut-être se dire, bah tiens, les gens qui font youtubeurs, on va pas leur permettre de monter en qualification. Et si on estime que finalement il faut plus de youtubeurs par exemple, bah on va se dire, tiens, collectivement, il faut qu'on incite à faire ça, et du coup, les gens, on va leur permettre de monter plus vite en grade. Et en fait, c'est l'idée vraiment fondamentale, c'est que le salaire, c'est un sujet politique, point barre. Alors que le revenu de base, si on peut le cumuler avec un autre salaire, bah, ça va être le montant du revenu de base va être un sujet politique.
Pour comprendre, le revenu de base, c'est quand même plus comme un chèque social, quelque part. Hein.
Un minimum.
Oui. Voilà, c'est des prestations sociales, en fait, dans ce qu'on en entend ou de ce que j'en saisis, moi, hein, personnellement. Mais...
En fait, on pense qu'avec un revenu de base, il n'y a pas de réelle transformation de la société, dans le sens où on décidera toujours pas de ce qu'on produit. Et combien même, si demain on a un revenu de base et qu'on a un minimum de, par exemple, de 500 ou 600 euros par mois, il va falloir qu'on cherche un emploi à côté. Et à ce moment-là, la négociation avec l'employeur, elle va être individuelle. L'employeur, il peut dire « Ah ben, je ne veux pas te donner autant puisque tu as déjà ton revenu de base, etc. » Alors qu'en fait, on ne pense pas que justement c'est individuellement qu'on doit inverser le rapport de force. Et là, le salaire à vie, versé de 18 ans à la mort, à partir de 1700 euros jusqu'à 5000 euros par mois, parce qu'on estime qu'il n'est pas nécessaire de gagner plus de 5000 euros par mois dans une société, et ben en fait, pour monter en qualification, on va décider collectivement de ce qui est important de produire. Donc il peut y avoir des tas de youtubeurs si on veut, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont produire en fait? On va regarder ça surtout. Et comment ils produisent?
Et donc là, on est vraiment sur la notion d'essentiel et de non-essentiel, mais on rejoint aussi le premier pilier qu'on a évoqué, c'est-à-dire la question de la démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, dans Émanciper, que ce soit avec votre casquette réseau salariat ou avec la casquette parler de démocratie et réellement déconstruire le discours peut-être actuel, de voir comment en fait on peut advenir dans une vraie démocratie, c'est lié à travers la notion centrale du travail, quelque part.
Exactement. Et d'ailleurs, on prône beaucoup le modèle des coopératives. Les coopératives d'activité et d'emploi, par exemple, qui permettent à des entrepreneurs salariés de développer leur activité tout en bénéficiant d'une prestation sociale. Mais aussi, il y a des coopératives d'activité et d'emploi qui font des expérimentations de pouvoir lisser tout le monde au même salaire et d'avoir une décorrélation entre revenus et emploi, entre revenus et activité, pardon. Et donc ça, c'est l'idée même du salaire à vie, de pouvoir mener son activité, parfois s'arrêter aussi quand c'est nécessaire, puisque tout n'est pas marchandisé. Et d'ailleurs, il y a des activités qu'on souhaite garder en dehors de la rémunération. Toutes les activités ne sont pas du travail, mais par contre, l'idée, c'est de reprendre la main sur la définition du travail. Est-ce que éduquer ses 5 enfants, les tâches domestiques, etc., est-ce que c'est du travail? Nous, on pense que oui, et que justement, on peut... si tout le monde bénéficie en fait de ce statut-là dès les 18 ans, parce que 18 ans, on pense que c'est la majorité politique, et toute personne sera en mesure de décider de ce qu'elle produit et ce qu'elle ne produira pas.
La seule condition pour qu'il y ait production, c'est que les personnes soient titulaires d'un salaire. C'est nous qui faisons le boulot. C'est nous qui produisons la valeur.
Vraiment, la différence entre revenu de base et salaire à vie, le revenu de base fait quelque chose qui est très bien, c'est éviter en fait la grande pauvreté, la précarité, notamment s'il est assez élevé, on va dire 800 ou 1000 euros. Mais le salaire à vie, lui, ce qu'il propose, c'est que la rémunération soit en fait en permanence dans le débat public et qu'on ait en quelque sorte une emprise sur ce sujet-là, quoi. Là où le revenu de base ne le fait pas, même si il a des qualités.
Voilà. Donc vraiment, on est dans ce changement de logiciel.
Oui.
Et j'aurais envie de vous dire, utopiste vous êtes. Comment vous faites en fait pour continuer à vous rattacher à cette idée alors qu'en fait l'environnement, l'écosystème actuel n'est pas vraiment celui-ci? Est-ce que c'est dans Émanciper que vous trouvez de l'ardeur, si j'ose dire, des pistes de militantisme?
Et bien justement, on s'appuie sur l'histoire et notamment la création du régime général en 46, qui a permis, avec le régime général, donc je répète les 5 branches qui sont l'accident du travail, la maladie, le chômage, vieillesse, et il m'en manque une, les familles, les allocations familiales. En fait, la cotisation sociale qui permet de financer ces branches-là, qui est prise sur la valeur ajoutée des entreprises, permet de financer en fait ces prestations-là. Et on pourrait, par ce même mécanisme financier, étendre d'autres formes de sécurité sociale, notamment l'alimentation, les médias, la culture, le logement, ce qui permettrait en fait de se passer de crédit d'investisseurs, puisqu'on prend directement sur la richesse qui est produite. Donc en fait, ce n'est pas totalement utopiste, puisque c'est réel aujourd'hui. Le régime général, c'est 500 milliards de cotisations, alors que, pour donner un ordre de grandeur, le budget de l'État est à 300 milliards. C'est des chiffres qui datent de 2016. Hein. Ils peuvent dater un peu, mais... Donc en fait, on se base sur le déjà-là émancipateur du régime général.
Ce déjà-là, il l'évoque beaucoup, hein, Bernard Friot. D'ailleurs, il dit même communisme déjà-là. Mais communisme, ça peut faire peur. Alors comment vous faites à émanciper? Parce que Arthur est quand même assez jeune. Si on est intéressé par vos idées, comment vous rejoint-on? Comment on fait si ça nous parle? Ou si on veut en savoir plus et que ça nous parle peut-être pas, mais qu'on veut en savoir plus?
Bah déjà, au niveau du réseau salariat, il y a 300 adhérents. Après, en Savoie, on est une vingtaine d'adhérents, 10 membres, une dizaine de membres actifs, plus on va dire à peu près 100 à 150 personnes qui suivent nos listings de mails, qui vont aussi sur notre site internet. On peut très bien, à chaque fois qu'on donne des ateliers ou des conférences, c'est gratuit. On a un site internet, émancipé.org. où vous pouvez d'ailleurs retrouver des... y a une bibliographie des idées qu'on prône, et vous pouvez aussi retrouver les 3 cycles de conférences sur la démocratie qui ont été donnés à la QCV l'an dernier.
Celui qui, de sa journée, ne possède pas les 2/3 pour lui, est un esclave, quoi qu'il soit par ailleurs. Humain, trop humain, Friedrich Nietzsche.
Aura des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur.
Bon, on va pas se mentir, tout n'est pas gagné en ce qui concerne le monde du travail. Pour la première fois depuis des dizaines d'années, avait lieu en mars 2023 dans les Bauges une manifestation. Radio Alto est allé rencontrer ces Baugeus mécontents.
Pourquoi manifester dans les Bauges et pas dans une grande ville?
J'y étais déjà Annecy mardi, mais là j'avais envie de... J'y suis déjà venue samedi dernier au Châtelard et envie aussi de voir localement comment aussi on se mobilise sans aller dans une grande ville par rapport aussi aux déplacements. Et se dire on est fort aussi localement de se retrouver ensemble et de montrer aussi notre engagement et de dire on refuse aussi comment on se mobilise, comment on dit non à certaines décisions qui sont encore prises sans l'échange avec. Enfin voilà. Donc c'est important pour moi.
Pourquoi êtes-vous présente ici ce matin?
Parce que je suis plus concernée, puisque je suis à la retraite, mais que je pense qu'il y a des tas de générations qui sont concernées par solidarité avec les jeunes. Eh bien, je trouve que c'est important d'être là. Voilà.
Pourquoi manifester dans les Bauges et pas dans une grande ville?
J'habite les Bauges. Et mardi, j'étais à Chambéry, donc j'ai manifesté à Chambéry. Voilà, parce que je pense qu'effectivement, les manifestations dans les grandes villes sont plus visibles. Mais en Bauges, comme c'est extrêmement rare qu'il y ait des manifestations, je me dis que c'est quand même un signe. Parce que la dernière manifestation, enfin en dehors de celle qui a eu lieu la semaine dernière, c'était quand même au moment où Le Pen était face à Chirac à la présidentielle. Et c'était moi qui suis née en Bauges, c'était la première fois que je voyais une manifestation en Bauges. Donc je pense que quand en Bauges les gens manifestent, c'est que ça veut dire que leur est grave. Hein, voilà.
Pourquoi il y a des gens qui klaxonnent?
Parce que c'est la manif.
Parce qu'on n'est pas content. Parce qu'on doit travailler plus longtemps.
Hein? Ouais. Tu dois travailler plus longtemps.
Depuis que t'es petit, on te répète qu'il faut travailler. Oui, je sais que ça t'embête, mais bon, faut travailler. Faut travailler à l'école, faut travailler après l'école. Car si tu travailles à l'école, tu pourras travailler quand t'auras fini l'école. Et tu seras content, d'avoir du travail. C'est pour ça que c'est important que dès maintenant tu travailles. Car si tu n'as pas de travail, tu ne sers à rien. Alors que si t'as un travail, c'est super bien. Peu importe le travail, peu importe que tu l'aimes ou pas, l'important c'est d'avoir un travail, un job, un boulot, un emploi. Vivre c'est pas juste exister et mourir 80 ans plus tard. Pour vivre encore faut-il travailler et mourir 80 ans plus tard. Depuis que t'es tout petit, tu entends que le travail c'est la santé. Bon certes, c'est pas toujours évident quand on voit la gueule de ceux qui ont travaillé, mais au moins ils ont eu un travail, c'est le plus important. Car ne pas avoir de travail, c'est très dégradant. C'est plus dégradant que de vider des poulets ou de torcher le cul des vieux. Passer 3 heures dans le RERB pour racler les chiottes de ceux qui disent que c'est par le travail qu'on s'épanouit. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille jusqu'à la fin de notre vie. Et que même quand on sera mort, ce serait pas mal qu'on travaille encore, car travailler c'est génial. Qu'on aille tous se faire cryogéniser, qui sait, peut-être que bientôt on pourra se faire décongeler et travailler à nouveau. Car vivre c'est pas juste exister et mourir 80 ans plus tard. Pour vivre encore faut-il travailler et mourir 80 ans plus tard.
Vous venez d'écouter Aura des Pâquerettes, une émission proposée par Aura FM, la Fédération des radios associatives non commerciales.
Merci de votre écoute et à bientôt sur cette antenne, à la rencontre d'un autre territoire. Une émission en réécoute sur le site aurafm.org.
Aura des Pâquerettes.